Bonsoir Jacques-Augustin, j'ai quitté mes fonctions de sous-directeur du tourisme le 13 septembre dernier, 5 ans en charge de l'administration de l'État du tourisme. Je pense que effectivement l'analyse que nous ont présenté nos deux jeunes étudiants est innovante. Effectivement, dans cette proposition de sensibiliser le pays au fait que c'est important et que ce delta qui existe entre la réalité économique et la prise de conscience des gens et du politique lui-même bloqué, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas si couru que ça. Donc bravo. Je compléterai ce qui vient d'être dit parce que je suis complètement d'accord. En fait, le problème du tourisme, c'est déjà un problème sémantique. Bon, on l'a dit, le touriste, ça n'avait pas sérieux. En plus, quand on parle de tourisme, on mélange énormément de choses. Je suis désolé, le tourisme de villégiature, ce n'est pas la même chose que le tourisme médical, ce n'est pas la même chose que le tourisme d'affaires. Et donc, du coup, on parle de tout et de rien, en fait. Et comme vous venez de le dire, on a tous été touristes. Donc, on se sent tous compétents pour être touristes. C'est comme dans la communication. On a chacun un avis. Quand il s'agit de sélectionner l'équipe de foot de France, on a tout d'un coup 60 millions de sélectionneurs. Donc, il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de science touristique. Et je ne partagerai pas l'avis de ce qui a pu être dit, que dire c'est complexe. Le tourisme, c'est très simple. C'est faire venir des gens, les accueillir, les nourrir, les loger et leur faire découvrir des choses un peu inhabituelles. C'est pas la physique nucléaire, c'est pas l'écologie dans toutes ses dimensions. C'est là-dessus qu'achoppe cette discipline. C'est trop vague, c'est pas assez spécialisé, il n'y a pas de rigueur scientifique. Et par contre, vous avez un peu sauté sur l'histoire du tourisme en France, parce que quand même, il y a eu, dans les années 60, une véritable stratégie touristique de développement. On était dans les plans, quoi. Donc, il y a le plan Racine, le plan Neige, la mission d'aménagement de la côte Aquitaine. Bon. Il y a eu un moment, une espèce de conscience qu'il fallait faire de l'infrastructure. Parce que le tourisme sans infrastructure, effectivement, et sans État, c'est en ce sens que l'État peut avoir un rôle. Et c'est quand même très difficile. C'est pas une activité suspendue, le tourisme. Donc, effectivement, il faut des impulsions. Mais quand on a fait ces plans-là, il n'y avait pas la loi littorale, il n'y avait pas la loi ceci, il n'y avait pas la loi cela. Donc, on voit bien que, par ailleurs, on se paralyse. Madrid, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais ils sont en train d'installer Eurovegas, quoi. Quand on sait ce que ça représente, le jeu dans la clientèle chinoise, il faut quand même se réveiller, quoi. Quel est le resort littoral qui a, en France, une envergure mondiale? Il n'y a rien, alors qu'on a toute la côte atlantique, on pourrait remettre sur pied la côte languedocienne. Bon, il manque véritablement une impulsion d'État qui s'est elle-même paralysée. L'autre élément que vous avez indiqué qui est vrai, c'est, vous avez tout à fait raison, on n'a pas lui-même du tourisme. Et ça, je crois que c'est véritablement une des responsabilités des pouvoirs publics, parce que nous sommes un village gaulois, donc les gens, quand on commence à parler de créer une structure, ils voient surtout qui va y avoir la présidence. Il faut vraiment que l'État joue dans cette affaire-là son rôle de médiateur, de poseur, de financeur, parce que chez nous, ce n'est pas les cotisations qui financent les organisations, donc il faut derrière, de toute façon, des fonds publics, mais on peut imaginer 50 systèmes. Donc là aussi, on a un point d'achoppement. Et dernière remarque, je crois qu'il faut aussi sérier dans les problèmes du tourisme. On ne peut pas mettre sur le même plan les histoires d'accueil. Moi, je suis assez sceptique sur cette affaire d'accueil, puisque je me tourne à M. Cage, mais combien 97% des gens qui ont visité l'Île-de-France repartent ravis, ou 87% à Paris, enfin, je ne sais pas. Bon, vraiment, où est la problématique de l'accueil? Par contre, effectivement, on a une problématique d'offres, d'infrastructures et des hôtels, notamment les hôtels non de chaîne, sont pas à la hauteur, nonobstant le fait qu'on les a quand même tous reclassés à 90 ou 95%. Mais quand vous parlez de ça aux hôteliers, alors d'abord, parfois on est un peu perplexe, on demande s'ils ont vraiment le sens de leur métier, mais surtout ils vous expliquent que tous les aménagements liés à la sécurité, tous les aménagements liés à l'accessibilité ont ponctionné complètement leurs réserves, et c'est quand même un peu difficile aussi de gagner de l'argent avec un petit hôtel tout seul. Donc il faut bien voir qu'on a un problème d'équilibre économique dans tout ça. L'accueil, c'est un sujet, mais est-ce que c'est un sujet d'État? Je ne sais pas. La notion de service, je vous rejoins d'autant plus que j'ai essayé de monter avec les chambres de commerce de France une formation à l'estime de soi dans le service. Et un des volets de l'affaire que je n'avais pas imaginé, c'était persuader le serveur que ce qu'il fait n'est pas un travail de laquais et qu'on peut être tout à fait honoré de faire ce métier dans un restaurant comme on est honoré de le faire dans un hôpital ou dans une maison de retraite. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de problème de culture de service pour les gens qui sont aides-soignants. Et pourquoi il y aurait un problème de culture de service quand on est dans les bars et restaurants? Et donc on voit bien qu'il y a une césure un peu bizarre. Mais l'autre élément, c'est que le patron considère que ceux qu'il emploie comme serveurs ne sont pas des gens qui sont méprisables. Et donc on va former aussi un peu les employeurs. Et puis la dernière strate, effectivement, c'est la politique du tourisme. Et là, vous n'avez pas mentionné, mais ça a été mentionné ensuite, tout à fait justement, ce millefeuille territorial est une affaire non maîtrisable, absolument non maîtrisable. Effectivement, quand on est à avoir d'un côté le CRT et de l'autre côté la direction régionale du tourisme, du conseil régional, qui ne se parlent pas, vous avez ciblé sur un point très original et la problématique, malheureusement, elle est très ramifiée, très complexe.
Pour répondre à ces deux interventions un petit peu, en fait, on a choisi, évidemment, vous-même nous en aviez parlé à l'époque, mais beaucoup d'autres intervenants, toutes ces problématiques de millefeuille administratif, de Roissy, etc., etc., etc. Et ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'effectivement, c'est des problèmes, mais on a choisi de ne pas s'en occuper parce que c'est des problèmes qui sont bloqués, comme vous le dites et comme vous le faisiez remarquer. Roissy, c'est un problème, mais ça fait 7 ans que c'est un problème. Et le millefeuille administratif, ça fait aussi 10 ans que c'est un problème. Donc on a choisi de ne pas en parler pour essayer de parler de pourquoi c'est bloqué. Parce que finalement, dire que les professionnels du tourisme ne sont pas organisés, ça fait longtemps qu'on le dit, et ils ne sont toujours pas organisés. Et Roissy, c'est toujours nul, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas en parler, on a essayé plutôt de se pencher sur pourquoi, justement, ça faisait 10 ans que c'était bloqué.
Oui, bonsoir, Pablo Fraschetti, cadre ingénieur chez un constructeur automobile français et petit propriétaire d'un tout petit domaine énotouristique. Donc, juste trois commentaires très très rapides.
Et argentin d'origine.
Voilà, j'allais y revenir. Le premier commentaire, c'est que bon, je me trouve déjà dans deux des trois activités que j'ai vues dans votre premier slide. Je voulais juste vous confirmer qu'effectivement, l'activité qui rapporte le plus, c'est le tourisme, pas forcément l'automobile en ce moment. Le deuxième commentaire, c'est que je suis bien d'accord avec votre exposé, l'exposé des jeunes étudiants de l'École des Mines. Je la trouve très intéressante, très, très enrichissante. J'ai capté pas mal d'idées que je vais essayer de mettre en pratique, mais que même si nous sommes bien d'accord, bien en face avec l'idée qu'il faut changer les mentalités dans le secteur du tourisme pour faire avancer les choses, il faut l'accompagner aussi avec une autre idée, que le tourisme, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est notamment un investissement personnel colossal. Oui. Donc, quand vous changez les mentalités, mais quand vous travaillez aussi, quand vous investissez, vous mettez tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses, là, c'est la clé de la réussite. Les troisième commentaires, et j'ai fini avec ça, et en tant qu'Italo-Argentin d'origine, il m'arrive de temps en temps de regarder la télé transalpine, et en début d'année, j'ai eu l'opportunité de voir le journal à la télé qui montrait un dossier, sur le tourisme. Et qui se posait exactement les mêmes questions. Pourquoi en Italie, un pays qui a tous les atouts, un pays qui pourrait devenir le premier en bénéfice touristique, et ça ne marchait pas? Donc le dossier montrait simplement ce qui s'est passé en Italie, et il faisait les parallèles avec ce qui s'est passé dans un autre pays que l'Italie proposait comme modèle, et ce pays était la France. La France que l'Italie admirait, notamment par sa capacité d'organisation, chose connue, ce n'est pas une nouveauté, et notamment par sa capacité à s'unir, comme j'ai entendu tout à l'heure dans le panel, à s'unir et appliquer, ce n'est pas pour vous contredire, mon cher monsieur, c'est ce qu'il disait le dossier, par sa capacité à appliquer des politiques touristiques au niveau national, qui pouvait appliquer des stratégies au niveau national, global, et qui s'articulait en même temps avec les politiques régionales et départementales. Chose qui ne passe absolument pas en Italie. En Italie, les politiques touristiques s'appliquent au niveau départemental. Ces dossiers, c'était une vraie catastrophe. Voilà.
Ça illustre un vieux proverbe français, ailleurs, l'herbe est toujours plus verte.
François Marquet, je voudrais savoir, vous avez fait l'École des Mines, c'est très bien, mais est-ce que vous avez cherché et trouvé des spécialistes en marketing qui aient orienté leurs recherches vers le marketing touristique, donc? Étant bien entendu, étant supposé que moi j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé ou pas trouvé beaucoup. Merci de votre réponse.
Alors, vous attendez pour la réponse et madame au fond.
Oui, bonsoir, Christine Bocobza, je suis chef d'entreprise dans le tourisme à Paris. Ma remarque rejoint deux remarques qui ont déjà été faites. Michel Berry, vous avez parlé d'effets anesthésiants tout à l'heure à propos du tourisme, et une autre personne, mais qui a quitté la salle, a parlé du fait que le tourisme, ça roule toujours. Et je pense que parmi les motifs, les raisons pour lesquelles on ne se préoccupe pas plus de l'enjeu économique du tourisme en France, c'est en partie parce qu'on considère que ça fonctionne tout seul et ça continuera toujours de fonctionner. La France et Paris sont parmi les destinations les plus désirées au monde, parmi les pays que l'ensemble des étrangers ont envie de visiter le plus. Et à ce titre, on pense que ça tournera toujours, qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper, d'investir ou de mener de grandes politiques. La France aura toujours l'art de vivre, que nous envient d'autres pays. Et récemment encore, je lisais une étude sur le luxe. On interrogeait un ensemble de personnes dans le monde sur le produit de luxe qu'ils souhaiteraient le plus acquérir. Et curieusement, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les vêtements, non, c'est le voyage de luxe. Et lorsqu'on pousse l'étude et qu'on demande quelles destinations sont associées à ce voyage de luxe, on a 1. Les Maldives, 2. L'Italie, 3. La France. Et si on interroge les Nord-Américains, on a 1. La France, 2. L'Italie. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est assez peu surprenant, c'est peu surprenant qu'on se préoccupe peu des enjeux économiques du tourisme en France. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Un premier enjeu, ça peut être que les touristes dépensent plus, restent plus longtemps, puisqu'on a vu qu'il y avait un décalage entre le nombre de visiteurs qu'on accueillait et les dépenses touristiques. Donc, comment faire pour qu'ils restent plus longtemps? Comment faire pour qu'ils dépensent plus? Deuxième enjeu, on en a parlé également, c'est le développement mondial du tourisme qui fait que d'ici 20 ans, il faudra être capable d'accueillir non pas 80, 82 millions de visiteurs, mais 160 ou 200 millions. Comment? Quel développement d'infrastructures faut-il faire? Et un troisième enjeu aussi que je voudrais rajouter qui concerne plus la distribution, les recettes liées à la distribution du tourisme. Le tourisme est un des premiers secteurs investis par Internet. La distribution de produits touristiques se fait beaucoup sur Internet. Et comment faire en sorte aussi que ces revenus liés à la distribution du tourisme aillent à des entreprises françaises et non pas à des géants de l'Internet comme Booking ou autres? Merci.
Alors d'abord, il y avait une question sur le marketing touristique. Qu'est-ce que vous en avez rencontré?
Très rapidement, Julien complétera si je ne dis pas tout. On a tenté de rencontrer des gens qui travaillent sur le marketing, mais on n'a pas trouvé, comme vous, effectivement. Pas sur le tourisme. Néanmoins, il y a des gens qui travaillent sur les marques pays. Typiquement la marque France ou la façon dont il faut aborder ces thématiques. Donc ça rentre dans le cadre. Donc on touche au tourisme, en partie. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des spécialistes du tourisme. En fait, quand on a regardé, essayé de voir quels étaient les interlocuteurs potentiels, on s'est rendu compte que le milieu du marketing était un petit milieu. S'il n'y a pas d'interlocuteur sur cette thématique du tourisme, je ne pense pas qu'il y en aura en France dans les futures années. C'est un sujet qu'il faut néanmoins développer, appuyer.
Quand on parle de marketing, il y a évidemment des gens qui font les publicités pour la France à l'étranger. Mais après, ce que je voudrais dire surtout pour compléter la réponse d'Amine, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin de marketeurs spécialisés dans le tourisme. Enfin, les recettes du marketing sont un peu toujours les mêmes. Et comme le montre l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, il n'y a pas besoin de trouver des marketeurs expérimentés dans le tourisme pour faire des super spots publicitaires. Ils ont appliqué des recettes marketing classiques, mais en tenant compte des spécificités culturelles de leur pays. Après, effectivement, ça, c'est une idée qu'on n'a jamais rencontrée. Donc, des gens qui font ça, je ne pense pas que ça existe. Non. Mais je pense que ce n'est pas un problème non plus.
Oui, moi, je voudrais faire part de deux notes d'espoir, d'évolution positive que je vois dans des révolutions à venir. La première révolution, à mon avis, c'est la fin du cumul des mandats des élus, qui, à mon avis, peut apporter un véritable renouvellement dans la classe politique, et surtout une notion de diversité des origines, donc évidemment plus de femmes, mais aussi plus de jeunes, des gens issus de la diversité, car j'ai pu constater tout simplement, à travers mon parcours professionnel dans le milieu du tourisme depuis 20 ans, que lorsqu'il y avait des assemblées composées uniquement d'hommes âgés, bien blancs, sans aucune diversité, il n'y avait pas de stratégie de renouvellement, c'est-à-dire qu'on fonctionnait toujours de la même façon. C'est la fameuse notion de le tourisme, c'est pas noble. Ce qui est noble, c'est l'industrie, c'est l'infrastructure, c'est la chose bien matérielle. Or, il me semble que beaucoup de rapports et de sociologues et de philosophes à l'échelle internationale nous annoncent depuis longtemps l'arrivée d'une ère beaucoup plus féminine et notamment la montée des valeurs de l'immatériel. Et ça, je rejoins la personne qui travaillait à l'Élysée qui est partie tout à l'heure, sur l'importance de prendre en compte et de travailler sur cette valeur de l'immatériel comme une valeur d'attractivité touristique de la France. Et je suis persuadé que le renouvellement à venir et le rajeunissement, la féminisation de la classe politique ira dans ce sens. La deuxième note d'espoir, c'est que je constate qu'enfin, dans les politiques touristiques nationales et locales, on s'intéresse enfin aux entrepreneurs. aux jeunes ou aux moins jeunes qui créent des entreprises, qui d'ailleurs galèrent, hein, parce que pour monter une entreprise, il faut quand même avoir du courage. Et on a compris qu'il faut aller mettre en place des politiques d'accompagnement de la création d'entreprises et beaucoup plus loin que ça, des politiques de soutien à l'innovation. Car le tourisme peut être un secteur innovant, il doit encore le montrer, moi j'en suis persuadé, d'autres évidemment aussi. Et donc, la notion de politique d'innovation et de tourisme, je le vois, je l'ai vu récemment dans des colloques où je suis intervenu, est en train de prendre une véritable ampleur, et notamment vis-à-vis de toutes ces micro-entreprises et ces jeunes ou ces moins jeunes qui créent des boîtes avec une idée, simplement, en général une idée simple, boostée évidemment par la révolution numérique et les technologies de l'information, mais pas que, également de l'innovation en termes de services, est une véritable révolution à venir. Et c'est la raison pour laquelle, notamment à Paris, nous allons lancer en février prochain le Welcome City Lab, qui sera le premier incubateur touristique au monde, un incubateur étant une pépinière d'entreprises innovantes destinée entièrement au soutien et à la stimulation de l'innovation sous toutes ses formes en matière de tourisme. Et ça, globalement, c'est une, je trouve, une vague de fond que je ne voyais pas encore il y a quelques années et qui me rend assez optimiste.
Je voulais simplement dire que madame a soulevé de vrais problèmes tout à l'heure, notamment sur le rôle de tous ces commerces sur le net qui ponctionnent du chiffre d'affaires de façon excessive, voire éhontée. Au Conseil national du tourisme, on va essayer de réfléchir à cela. Il y a des expériences absolument folles, c'est-à-dire vous faites un contrat avec un restaurant, vous passez par le net pour réserver votre place dans un restaurant, eh bien, il y a le système La Fourchette qui est capable de s'entremettre de lui-même entre le restaurant et vous, et de piquer un bout de la recette du restaurateur automatique. Dans les hôtels, on ponctionne de 15 à 30% de la recette pour des sites internet qui se font intermédiaires. Dans plusieurs hôtels où j'avais réservé malencontreusement comme ça, on m'a dit « Ah bon, vous êtes passé par là, eh bien on vous a réservé la plus mauvaise chambre de l'hôtel ». C'est une vraie problématique. Pour finir aussi, le Conseil national du tourisme vient de travailler sur l'emploi dans le tourisme, on l'a évoqué tout à l'heure, où il y a en permanence 70 000 emplois pas pourvus. Et c'est M. François Noguet, président de Pôle emploi, qui a dirigé ce rapport. Et dans peu de temps, nos ministres, Mme Pinel et M. Sapin, vont rendre ce rapport public et dire les préconisations qu'ils font à partir des travaux qui ont été conduits au Conseil. Merci.
Juste un mot pour dire effectivement cette question des intermédiaires. Internet, ce n'est pas simplement une question française, c'est une question qui touche beaucoup de pays. Et je pense que cette problématique, elle est assez large. Et donc, nous aussi, on y réfléchit. Pour l'instant, pas au comité du tourisme, mais on a un comité qui travaille justement sur ces problèmes de réglementation ou de nouvelles réglementations qui pourraient être mises en place pour un peu organiser un peu tout ça. Mais c'est un vrai problème. Bon, vous avez mentionné la question du développement des recettes et de la valeur ajoutée du tourisme. Je pense qu'on en a largement parlé et je pense que ça passe avant tout par le produit touristique, les synergies qu'on est capable de mettre entre le tourisme et par exemple les industries créatives ou la culture pour aller au-delà de ce qui s'est fait pendant longtemps et justement pour proposer des choses nouvelles. Et je pense que dans ce domaine, la France a de véritables atouts à mettre en avant par rapport à un grand nombre d'autres pays. Et effectivement, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bon, tout à l'heure, on parlait du modèle espagnol, etc. Bon, le modèle espagnol, on peut le regarder sous différents angles, mais je ne considère pas forcément que ce soit un modèle à suivre, notamment si on prend simplement la question de la bétonisation des côtes, par exemple, pour parler que de ça, ou de l'importance que joue le marché immobilier, et on voit actuellement les problèmes dans le développement du tourisme. Donc, c'est toujours un petit peu plus complexe que ça.
Pardon, l'endettement du secteur en Espagne est très considérable, beaucoup plus important que chez nous.
Prochaine soirée, le 5 décembre, le sujet sera les vertus et les risques de la financiarisation du social avec le président du Crédit Coopératif qui va nous parler des évolutions dans le domaine. Et en janvier, je prépare une soirée où je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde sur les MOOC, jusqu'où prendre au sérieux les MOOC, la diffusion massive des enseignements à distance. Voilà. Alors, nous avons sacrifié un art français qui est le goût du débat. Vous allez bientôt voir comment on va sacrifier aussi un autre goût français, le goût de bien écrire. C'est Pascal Lefebvre qui va mettre en ordre tout ce qui s'est dit ce soir. Et puis, nous allons maintenant prolonger par un autre goût, que les étrangers nous reconnaissent, le goût du repas. Merci pour cette soirée.